Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux premières Coupes du monde de football, à la naissance de la première Coupe du monde. La première Coupe du monde de football a eu lieu en Uruguay, en 1930. La Fédération internationale de football association, FIFA, avait été créée en 1904 à Paris. Elle se contentait d'organiser un championnat international, de tenir un tournoi de football lors de chaque Olympiade d'été, considéré à l'époque comme le championnat du monde des amateurs. La FIFA va entrer en conflit avec le Comité international olympique de Pierre de Coubertin au sujet du statut des joueurs amateurs. L'objectif de la FIFA était d'organiser une grande épreuve professionnelle de football. Le football a été donc retiré du calendrier des Jeux olympiques de 1932 à Los Angeles. Un autre Français, le président de la FIFA, Jules Rimet, s'avère l'homme de la situation. La Coupe du Monde 1930 est conçue le 26 mai 1928 lors de la conférence d'Amsterdam de la FIFA. La première tâche de Jules Rimet a été de choisir le pays d'hôte et il n'était pas à court de prétendants. Les meilleures équipes d'Europe se montraient enthousiastes. L'Italie, la Suède, l'Espagne, la Hongrie et les Pays-Bas proposant d'accueillir la compétition. Tandis que l'Uruguay portait la seule candidature en Amérique du Sud. Les Uruguayens étaient les champions olympiques en titre, ayant battu en 1928 l'Argentine 2-1 au stade olympique d'Amsterdam lors d'un match d'appui, le premier s'étant terminé à 1-1. Ils avaient été aussi champions olympiques à Paris en 1924. Il prévoyait également de construire un nouveau stade national d'une capacité de 90 000 places pour célébrer les 100 ans de leur indépendance, c'est-à-dire leur séparation de l'Argentine. Il proposait de payer les frais à tous les participants. À une époque antérieure au vol transatlantique, et alors que de nombreux pays se débattaient face à une crise économique mondiale, cette offre était si audacieuse et généreuse que leurs rivaux européens ne pouvaient l'égaler. L'Uruguay fut désigné lors d'un congrès de la FIFA à Barcelone en 1929. L'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et l'Italie possédaient certains des joueurs les plus talentueux de l'époque, mais ne se sont pas laissés convaincre de faire ce long voyage. L'Angleterre, l'Écosse, inventrices du football, ne se sont pas invités, ayant résilié leur affiliation à la FIFA, et dire que le football avait été introduit par eux en Uruguay et en Argentine. Jules Rimet a persévéré et a finalement trouvé 4 équipes européennes, la Belgique, la Roumanie, la Yougoslavie et la France. 13 équipes participent à cette première Coupe du Monde. Le Français Lucien Laurent, qui a marqué le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde lors du match Mexique-France, a été autorisé à quitter l'usine Peugeot, propriété de Jean-Pierre Peugeot, dans laquelle il travaillait, seulement s'il acceptait de renoncer à son salaire pendant son absence. Le président Rimet accompagne la traversée de 3 équipes européennes sur le paquebot italien Conte Verde, emportant dans sa valise le trophée de la compétition, une statuette de 4 kg et de 30 cm qui lui donnera son nom. Le paquebot, le Conte Verde, passera sous pavillon japonais après un échange de prisonniers au début de la Deuxième Guerre mondiale et sera coulé par l'aviation américaine au nord de Kyoto en 1945. 53 ans plus tard, le trophée Jules Rimet sera volé au siège de la Fédération brésilienne à Rio de Janeiro et ne sera jamais retrouvé, ayant certainement été fondu pour son or. Le tournoi, même s'il connaît qu'un écho lointain en Europe et qu'il provoque quelques incidents dans les pays des 2 finalistes, à savoir l'Uruguay et l'Argentine, c'est une réussite sportive et commerciale. Le principe de la compétition tous les 4 ans ne sera plus remis en cause. Si les Français battent les Mexicains 4-1 lors du premier match, ils s'inclinent 1-0 face aux Argentins et 1-0 face au Chili. Ils quittent la compétition sans accéder aux demi-finales. La finale oppose l'Argentine, vainqueur des États-Unis, équipe composée de Britanniques professionnels, et l'Uruguay, vainqueur des Yougoslaves. L'arbitre belge de la finale, John Langenus n'a accepté d'arbitrer la finale que sur l'assurance qu'un bateau l'attendait au port s'il avait besoin de quitter rapidement le pays après la rencontre. Les Uruguayens sont menés 2-1 à la pause. Mais grâce à El Manco, le manchot, à cause d'un accident d'enfance qui lui avait volé son avant-bras droit, voit sa frappe qui, à la 89e minute, scelle la victoire uruguayenne par 4-2. De l'équipe uruguayenne champion du monde, on retiendra surtout José Leandro Andrade, né le 20 novembre 1901 et mort le 5 octobre 1957, évoluant au poste de demi-droit durant l'entre-deux-guerres et considéré comme le premier grand joueur noir dans l'histoire du football. Sa façon raffinée de manier le ballon séduit le public parisien au cours des Jeux Olympiques de 1924, au point qu'on le surnomme « la merveille noire ». Double champion olympique à Paris en 1924, puis à Amsterdam en 1928, Andrade remporte la première édition de la Coupe du Monde sur ses terres. Son habileté balle au pied fait de lui l'un des principaux artisans de ses 3 titres internationaux, tandis que son élégance naturelle captive l'écrivain Colette et Joséphine Baker. Doté d'une conduite de balle phénoménale, Andrade est surtout connu comme le premier joueur noir champion du monde de football avec la Céleste, nom donné à l'équipe nationale d'Uruguay. Adulé des foules au fait de sa gloire, puis musicien de cabaret, malgré une cécité débutante, il meurt à 55 ans, dans le dénuement le plus complet. Andrade annonce un autre mendiant du beau jeu, le Brésilien Garrincha, au même destin tragique. Jules Ernest Séraphin Valentin Rimé est né le 24 octobre 1873 à Telé, en Haute-Saône. Il meurt le 15 octobre 1956 à Suresnes, dans le département de la Seine. Il est né chez son grand-père, agriculteur et meunier, car son père paysan était monté trouver du travail à Paris à la suite de la crise agricole consécutive à la Grande Dépression. Il reçoit une éducation chrétienne et patriotique empreinte de catholicisme social. En 1885, il fait sa première communion, obtient le certificat d'études primaires et quitte son village natal pour rejoindre ses parents qui travaillent comme épiciers dans un quartier populaire du 7e arrondissement de Paris. Rimé passe son adolescence au lycée La Rochefoucauld. Il découvre le football dans la rue. Il s'y forge la conviction des bénéfices du sport dans l'éducation physique et morale des jeunes, vecteur de bien-être et d'amitié entre les peuples. Élève consciencieux et assidu, il obtient son baccalauréat, puis une licence de droit et devient avocat. Il devient par la suite associé au comptoir fiduciaire de Paris, un cabinet de contentieux et de recouvrement. Il s'intéresse à de nombreuses disciplines sportives, notamment l'escrime et l'athlétisme. Le 21 février 1897, Jules Rimé fonde le club omnisport du Restart. Jules Rimé a alors 23 ans. Le club applique les valeurs humanistes de son fondateur et notamment son ouverture aux jeunes issus de familles pauvres. Il se dit qu'il aura appelé Red Star car sa gouvernante d'origine anglaise prenait un bateau à vapeur dénommé Red Star, l'étoile rouge. Au-delà du football qui l'intéresse avant tout pour ses vertus éducatives, Rimé est passionné de poésie, de littérature, de musique. Il ouvre ainsi au sein du Red Star une section littéraire et artistique avec comme but la vulgarisation des sports athlétiques. Le lien entre Rimé, avocat parisien, et l'image populaire d'un club ouvrier de Seine-Saint-Denis, issu de la région industrielle de Saint-Ouen, près de la porte de Clignancourt, au passé antifasciste, interroge toujours même aujourd'hui. Boer, du Restart, du nom du docteur Bauer, juif allemand exécuté par les Allemands en 1942, a vu passer de grands noms du football, tels Nestor Combin, Fleury Dinalo ou autre Roger McNunson, qui ont porté le maillot vert à l'étoile rouge. Survivante à la Grande Guerre, avec le grade de lieutenant d'infanterie et une croix de guerre, Jules Rimé reprend ses activités de dirigeant sportif. Il est élu président de la toute nouvelle Fédération française de football, la 3F, en 1919. Il a la joie, en 1921, 1922, 1923 et 1928, de voir le Restart remporter la Coupe de France de football, la principale compétition française du moment. Il défend l'avènement du professionnalisme dans le football français, y voyant le seul moyen d'ouvrir la pratique du football aux classes pauvres, constituées d'employés et d'ouvriers. En 1942, Rimé se retire de la présidence de la Fédération française de football pour protester contre les mesures imposées par le Commissariat général à l'éducation et au sport de Vichy, comme la restriction du professionnalisme ou la modification de la durée des rencontres. Mais Jules Rimé n'est pas le seul précurseur. Henri Delaunay est né le 19 novembre 1883 à Paris, dans le 16e arrondissement, et décède le 10 novembre 1955 à Ville-d'Avray, en Seine-et-Oise. C'est un dirigeant sportif historique à l'origine du football en France. Secrétaire général de la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France de 1915 à 1919, il y poursuit l'action de Charles Simon après la disparition tragique de celui-ci sur le front en 1915. En mémoire de Charles Simon, Henri Delaunay fonde en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, la Coupe Charles Simon qui prendra le nom de Coupe de France. Avec Jules Rimet, Henri Delaunay fonde en 1919 la Fédération française de football. Henri Delaunay est aussi membre de la Fédération internationale de football Association et secrétaire général de l'Union des associations européennes de football en 1954. Durant sa carrière, il participe à la création de la Coupe du monde de football, de la Coupe d'Europe des clubs champions et du championnat d'Europe de football, l'Euro, qui ne voit le jour qu'après son décès. Son fils, Pierre Delaunay, fut également secrétaire général de l'UEFA. La deuxième édition de la Coupe du Monde en 1934 est précédée d'une phase qualificative et remporte un grand succès médiatique, étant pour la première fois couverte par la radio. Elle n'est cependant pas exempte de polémiques. Le choix d'en confier l'organisation à l'Italie fasciste de Benito Mussolini, qui exploite la compétition pour vanter son régime, est critiqué. Mais Rimet refuse d'entrer dans la polémique. De plus, 12 des 16 participants sont européens, alors qu'ils avaient massivement boycotté le tournoi de 1930. L'Uruguay, tenant du titre, déclare forfait en représailles. Il n'est pas non plus de la partie en 1938, en France, tout comme l'Argentine. Cette troisième édition en France, en 1938, est marquée par de nouvelles perturbations politiques. L'Autriche, annexée par l'Allemagne nazie, doit déclarer forfait. Les Allemands commencent leur match par un salut nazi, ce qui fait scandale. Malgré tout, Rimet poursuit sans état d'âme le développement de son projet de la fédération qui survive à la Seconde Guerre mondiale. En 1946, le trophée de la Coupe du monde de football, une statuette en or sculptée par Abel Lafleur, connue comme la Victoire aux ailes d'or, est rebaptisé Trophée Jules Rimet en son honneur. C'est le nom donné aux premières éditions de la Coupe du monde de football. La coupe, en métal plaqué or fin, est la représentation de la déesse Victoire, sur laquelle sont gravés les noms des vainqueurs de la compétition. De 1930 à 1970, le pays vainqueur de la Coupe du monde de football en restait détenteur jusqu'à la coupe suivante 4 ans plus tard. En 1970, à la suite de sa troisième victoire, le Brésil reçoit le trophée de manière définitive, de sorte qu'en 1974, une nouvelle coupe, d'un dessin différent, est mise en jeu.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.